se retrouve prochainement pour un nouveau numéro. Belle journée à toutes et à tous.
Le temps des copains, l'émission des années 60.
Salut les copains
sur RVE.
RVE, bonne matinée. Il est 10h.
RVE, le point sur l'actualité nationale et internationale.
Bonjour, la tension a été maximale jusqu'au bout pour les Allemands. Ils se sont imposés 2-1 hier face à la Suède. Toni Kroos a marqué le but libérateur dans les dernières secondes. Un succès qui permet aux champions en titre de garder ses chances de qualification. Ils ont pourtant fini la rencontre à 10. Le Mexique, lui, se rapproche des huitièmes de finale de cette Coupe du Monde. Victoire 2-1 face à la Corée du Sud. Les Diables Rouges, eux, ont fait vivre un enfer à la Tunisie. 5-2 pour la Belgique. Aujourd'hui, Angleterre-Panama, ça sera 14h, Japon-Sénégal à 17h et Pologne-Colombie à 20h. La question de la prise en charge des migrants au cœur des discussions européennes. Hier, la France et l'Espagne ont proposé de créer des centres fermés directement sur les côtes européennes. Les migrants y seraient envoyés dès leur débarquement en attendant l'instruction de leur dossier. Emmanuel Macron se dit aussi favorable à des sanctions financières pour les pays de l'Union qui refuseraient d'accueillir des réfugiés. Des annonces alors que se tient aujourd'hui un mini-sommet européen. 16 dirigeants de l'UE se réunissent pour trouver ensemble des solutions, mais les positions sont très contrastées. Et pendant ce temps, quelques jours seulement après l'affaire de l'Aquarius, un autre bateau a été empêché d'accoster sur les côtes italiennes avec 230 migrants à son bord. Le Lifeline, un navire humanitaire, patiente dans les eaux internationales en attendant de trouver un port. Un jour historique pour les femmes saoudiennes. Après des décennies d'interdiction, elles ont l'autorisation de conduire depuis ce matin. Dès minuit, elles ont été nombreuses à sillonner les routes du pays. Jour de vote en Turquie, 56 millions de personnes attendues pour ces élections présidentielles et législatives. Le président Recep Tayyip Erdogan brigue un nouveau mandat. Lui qui est accusé de dérive autoritaririste. Face à lui, Muharrem İnce, le candidat du Parti républicain du peuple, a réuni des centaines de milliers de personnes dans un meeting à Istanbul hier.
Le sport dans quelques instants et puis la météo de ce dimanche, un ciel qui sera clément avec de belles périodes d'éclaircies, de rares passages nuageux. On aura des températures qui iront jusqu'à 25-26 degrés maximum.
Chaque dimanche, 10h-11h, sur RVE, retrouvez toute l'actualité sportive, locale, régionale, nationale et internationale dans Tribune Sport, avec Philippe Carnu.
Et effectivement, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue en ce dimanche 24 juin pour un Tribune Sport en configuration mondiale. On a suivi beaucoup de matchs cette semaine. On va les disséquer, les commenter et on prend l'avion dans quelques heures pour Moscou. Donc on a exceptionnellement enregistré ce rendez-vous. Je commence avec mon ami Stéphane Dezenclos, rédacteur en chef de foot. Stéphane, bonjour. Ça va? Belle semaine de matchs?
Oui, belle semaine de matchs. Je suis pas encore sûr. Je crois qu'il faudra quand même attendre les tours éliminatoires pour voir des bons matchs dans cette Coupe du Monde.
Oui, mais aucun 0-0 paradoxalement.
Effectivement, c'est ce qu'on peut souligner. Il n'y a pas de 0-0, il y a des buts, il y a pas mal de buts, certains très beaux buts, mais il y a aussi quand même pas mal de buts grâce à l'assistance vidéo. Je ne sais pas combien il y a eu exactement de pénaltys.
Alors je crois qu'il y avait des stats hier, il y a eu 12 pénaltys, oui, sur 20, sur la moitié des matchs, ça représente, je crois, 57% des buts en coupe arrêtée.
Voilà, tout à fait. Et beaucoup de ces pénaltys sont dus à l'assistance vidéo. Et comme on l'avait dit déjà la semaine dernière, on était assez unanime pour le souligner. Et moi, je m'en satisfais énormément. Je crois que c'est le gros point positif, je pense, de ce premier tour de Coupe du Monde.
Allez, notre ami Ch'ti, Francis, est avec nous encore. Salut Francis, ça va? Les matchs sont sympas?
Bonjour Philippe, bonjour à tous. Oui, les matchs sont sympas, mais comme le disait Stéphane, c'était pas encore très brillant. Et puis je m'attends au pire au troisième match, parce que les gens vont jouer avec le pied sur le frein, d'autres sur l'accélérateur. Ça risque de ne pas être très joyeux, mais enfin, on verra.
Bon, c'est bien, la semaine prochaine, les matchs à élimination directe auront commencé. Donc ça sera peut-être une autre Coupe du Monde qui débutera.
On peut l'espérer.
Allez, le plus portugais de nos amis du Paris Saint-Germain, c'est José Vega. Salut José, ça va?
Oui, bonjour Philippe, bonjour à tous. Oui, ça va, très bien. Bon, bah, pour l'instant, l'équipe du Portugal se porte à peu près correctement. La France, pour l'instant, c'est moyen aussi, mais je pense qu'ils vont monter crescendo. Et comme Stéphane parlait de vidéo, je trouve quand même que la vidéo n'impacte pas trop le jeu. Pour l'instant, on s'attendait à pire. Pour l'instant, on a pas trop de mauvaises surprises au niveau de la vidéo.
Oui, c'est vrai que souvent, on parlait des erreurs d'arbitrage dans un mondial, des très nombreuses erreurs d'arbitrage. Là, c'est vrai qu'il faut reconnaître que c'est le point positif, quoi.
C'est vrai, ne serait-ce que le pénalty hier, l'arbitre a été visionner la vidéo et puis il a annulé le pénalty. C'est très bien. Et puis, comme je vous disais à l'instant, ça n'impacte pas trop le jeu. Il n'y a pas trop de temps mort. On s'attendait à pire. Moi, je trouve que c'est pas mal, la vidéo.
Allez, il est dans nos studios ce dimanche. C'est Arnaud. Salut Arnaud, ça va ?
Bonjour Philippe, ouais, bonjour à tous. Oui, bah écoutez, les matchs sympas, on a des gros qui sont bousculés, une Coupe du Monde qui est un petit peu fermée, mais tout aussi plaisante à voir. Donc pour le moment, c'est sympa. Après, on a hâte de voir les huitièmes et les quarts arriver parce que c'est là où ça va vraiment jouer au ballon.
Allez, on va donc disséquer et décortiquer tous les matchs de ce mondial qu'on a vu cette semaine, tous les différents groupes. On va commencer naturellement avec l'équipe de France qui, donc après sa laborieuse victoire contre l'Australie 2-1 la semaine dernière, s'est imposée devant le Pérou 1-0. Une mi-temps bien, une mi-temps moins bien, j'ai envie de dire.
Oui, une mi-temps bien, une mi-temps moins bien. Personnellement, je pense que Didier Deschamps a trop fréquenté le championnat italien, que ce soit comme joueur ou comme entraîneur, parce que mettre un but et après se retrancher derrière...
Vous pensez que c'est volontaire ?
Ah, je pense que c'est volontaire, parce qu'on peut avoir une ou deux défaillances un peu physiques, mais quand toute l'équipe recule comme ça, c'est qu'ils ont des instructions.
Mais il y a eu quand même du positif. On a vu une équipe avec beaucoup plus de liens, surtout avec le milieu de terrain Pogba-Kanté.
Oui, Kanté, il a été encore le meilleur sur le terrain comme au match précédent. Pogba, au premier mi-temps, était pas mal, mais après, bon, il a pas... on l'a connu meilleur tout de même.
Stéphane, comment on peut, comme ça, juger la prestation mitigée de cette équipe de France, une mi-temps bien, une mi-temps moins bien ?
Exactement, bah, comme disait Francis... Deschamps, il a fréquenté beaucoup le calcio, mais surtout il a en lui ce gène de la gagne, et il y a que ça qui compte. Alors effectivement, quand on regarde la composition de l'équipe alignée contre le Pérou, on constate quoi, qu'il y a Giroud qui est là pour permettre à Griezmann d'être dans des bonnes conditions, les conditions dans lesquelles il a envie de jouer, pour aller au duel, gagner des duels de la tête. Il y a Matuidi, je sais pas si autour de la table il y a des gens qui ont vu Matuidi, qui est un joueur que j'adore en étant supporter du PSG, que j'adore, mais on le voit pas du match à part défendre et bloquer un couloir. Donc c'est annihiler complètement l'esprit du jeu et penser d'abord à, entre guillemets, détruire, quoi, bloquer le jeu de l'adversaire que je vais. Résultat, ça gagne 1-0, et comme ça on va aller peut-être en 8e, en quart de finale. J'ai malheureusement un peu de doute sur la possibilité d'aller plus loin en s'exprimant.
Bon, on a quand même vu du mieux dans cette équipe de France par rapport à ce match face à l'Australie, au niveau des lignes notamment, au niveau du lien.
Oui, je pense que ce serait mentir que de dire non, mais moi je me suis embêté devant mon poste de télé, quoi. Je sais pas si les gens, alors toi, tout à l'heure Arnaud, tu dis vivement les huitièmes, les quarts, bah oui, vivement, parce qu'au moins on aura la satisfaction d'une qualification. Si jamais on est stressé, que ça joue mal et tout, on s'en foutra. C'est là faut voilà. Mais cette mentalité, cette philosophie, faut savoir que quelqu'un comme Didier Deschamps, il l'a pour tous les matchs. Lui, il a ça ancré en lui, et donc c'est vrai que ça plaît pas forcément. Moi, je peux pas dire que je me suis éclaté à regarder l'équipe de France.
Enfin, bon, si on est champion du monde, on oubliera tout, Stéphane.
Exactement. C'est pas Aimé Jacquet qui dira le contraire. Hein. Oui, parce que si on parle du calcio, mais si on dit que la référence ultime, finalement, quelque part, de Deschamps, c'est Jacquet. Hein. Et je vous rappelle quand même qu'on a joué la Coupe du Monde avec un avant-centre, toute la Coupe du Monde avec un avant-centre qui a pas marqué un seul but, quoi. Donc voilà. Donc c'est... Ouais.
José.
Oui, bah, je pense que pour l'instant l'équipe de France n'a pas encore toute la plénitude et tous les moyens. C'est pas la grande équipe de France qu'on connaît. Et je pense qu'ils vont monter crescendo. Et je pense, comme disait Stéphane, que dans les huitièmes de finale, comme ça sera des matchs à élimination directe, je pense qu'ils vont vraiment commencer à sortir les vrais schémas de jeu et à prendre en compte pour passer au tour suivant. Et je pense que là, ils vont se donner, ils vont mouiller le maillot et ça va être mieux. Je pense qu'on verra des plus beaux matchs.
Oui, parce qu'il ne faut pas oublier quand même que les grosses équipes, les grosses écuries, elles sont programmées pour monter en puissance. Hein. C'est quand même, à chaque Coupe du Monde, c'est comme ça.
Oui, oui, et pour l'instant, on peut dire que, parce que je regarde pratiquement tous les matchs, l'équipe qui m'a le plus impressionné, c'est peut-être la Croatie. Et puis, je pense que Didier Deschamps serait bien qu'il fasse au moins un minimum match nul contre le Danemark mardi ou même qu'on gagne pour finir premier, pour pas tomber contre la Croatie. J'aimerais pas qu'on tombe contre la Croatie.
De toute façon, sur le papier, quand on regarde le dispositif de l'équipe de France, c'est une équipe qui est capable de jouer en bloc et après de partir en contre. On a des flèches devant qui peuvent aller jouer en contre. Après, j'ai bien peur qu'on tombe contre le Portugal de Ronaldo, l'Argentine de Messi. Avec cette défense-là, malheureusement, ça ne le fera pas. On a une défense qui a, pour moi, un petit peu la peur au ventre. Umtiti est dans une saison qui est catastrophique avec les Bleus. Est-ce que la France est capable de défendre 90 minutes contre Messi, contre Ronaldo, contre Neymar ou contre l'Allemagne, par exemple? J'ai de gros doutes, donc être capable de pouvoir défendre et tenir un résultat contre le Pérou, pourquoi pas contre le Danemark, oui, mais une fois contre les gros, malheureusement, la recette ne marchera plus et ça sera très compliqué.
Alors l'équipe de France est en tête de son groupe, défaite interdite donc mardi contre le Danemark. Hein.
Oui, tout à fait, comme je le disais à l'instant, il faut absolument qu'on fasse au moins un match nul contre le Danemark pour pouvoir éviter la Croatie au tour suivant, en huitième. Parce que là, je pense qu'avec l'équipe, comme elle joue actuellement, l'équipe de France, contre la Croatie, on a des gros soucis à se faire.
Alors, le Danemark qui avait battu le Pérou 1-0, puis le Danemark qui a fait nul contre l'Australie un partout, ce qui prouve que cette équipe australienne, elle n'est pas si facile que ça.
Ouais, je pense que moi, personnellement, je pense surtout que ça prouve que l'équipe danoise, elle n'est pas si bonne que ça, quoi. Oui. Et qu'elle est vraiment... Je pense que le Pérou par exemple était meilleur. D'ailleurs, les Danois ils ont eu énormément de chance pour venir à bout du Pérou. Hein. Donc moi je pense pas que le Danemark ça soit un grand danger pour l'équipe de France. Mais je voulais juste revenir sur l'adversaire. Je suis pas convaincu. Fondamentalement que ça soit mieux de jouer l'Argentine par exemple que la Croatie en huitième de finale, parce que les Français, on nous connaît, comme le disait tout à l'heure Arnaud, il parlait, on n'avait peut-être pas les moyens de défendre, on n'a pas les moyens de défendre sur un Messi et tout, on nous connaît, on va affronter l'Argentine, on va se faire tout un monde dans la presse, et peut-être, j'espère que ça va peut-être déteindre chaleur. C'est là que la philosophie de Deschamps va rentrer en ligne, de défendre sur un Messi, sur Di Maria si jamais il joue, ou des joueurs comme ça. Donc je suis pas sûr que ça soit, la Croatie est une très très belle équipe, mais il y a moins d'individualité, en tout cas dans le potentiel, que l'Argentine. Et moi, je préférerais presque jouer la Croatie que l'Argentine.
En tout cas, nous, les journalistes, on aime bien les stats. Arnaud, il en a. Si on bat le Danemark, à chaque fois qu'on a battu le Danemark, on est allé très loin, Arnaud.
Oui, on est allé loin. C'est arrivé en 84, en 98, en 2000. À chaque fois que la France a battu le Danemark, on a gagné la compétition à venir. Et pour revenir sur ce que disait Stéphane, pour moi, le problème de jouer l'Argentine en 8e, c'est que Messi, c'est le genre de joueur qui peut sortir une équipe à lui tout seul. Donc, un petit peu comme Ronaldo d'ailleurs. Mais voilà, c'est le bête blessé. En plus, on a vu l'Argentine humilier cette semaine. Et malheureusement, j'ai peur que de jouer l'Argentine, Messi, qui peut humilier une défense entière à lui tout seul et éliminer la France. Mais d'autre part, la Croatie, c'est un collectif que l'équipe de France n'a pour le moment pas suffisamment. Un milieu de terrain qui est solide au niveau de l'équipe de France, mais pas aussi solide que celui de la Croatie. Donc on peut espérer qu'une chose pour l'équipe de France, je pense qu'on sera d'accord en 8e, c'est de prendre le Nigeria ou l'Islande. Ça sera déjà plus facile que la Croatie qui devrait, selon toute vraisemblance, finir première, ou l'Argentine qui va se battre pour la deuxième place.
Donc comme en 2014, hein, le Nigeria.
L'Argentine n'a pas encore battu le Nigeria.
Alors, on va en parler justement. Bon, pour l'instant, donc France 6 points, Danemark 4 points, on peut penser qu'ils vont sortir du groupe. L'Australie 3e 1 point et le 4e le Pérou, donc 0 point, éliminé. Après on verra les places, mais on peut quand même penser que l'équipe de France va jouer le match nul, Stéphane, non? Je te vois pas.
Je parierai pas aujourd'hui sur le fait que le Danemark se qualifie pour les huitièmes de finale.
D'accord. Donc il faudrait.
Je pense que si la France.
L'Italie batte le Pérou et avec un gros écart quand même au goal average.
Un gros écart, je sais pas, au goal average, j'ai pas regardé.
Il y a plus un pour le Danemark.
Ça serait une victoire de un but de l'équipe de France et une victoire de un but de l'Australie contre le Pérou. Mais malheureusement. Ouais, mais malheureusement, je pense pas que l'Australie soit capable de battre vraiment le Pérou. Donc. Surtout que le Pérou, 36 ans après une Coupe du Monde, les mecs, je les vois pas lâcher le match. Je pense qu'ils ont vraiment la hargne et l'envie de gagner un match en Coupe du Monde. Donc l'Australie a fait une superbe deuxième mi-temps contre le Danemark. Mais est-ce que c'est une équipe capable de battre le Pérou qui était solide malgré deux défaites? Je sais pas. Après, 3 points d'avance, c'est quand même, pour moi, il y a un matelas assez suffisant pour le Danemark. Et je pense que le Danemark va quand même passer. Et attention à ce France-Danemark. Parce que mine de rien, la France, sur les deux premiers matchs, c'est sur un fil. Le Danemark a une attaque... plus que plaisante malgré l'absence de Poulsen pour le troisième match. Voilà, faudra quand même se méfier, faire attention parce que le Danemark ça sait jouer au foot. Il y a un milieu de terrain qui est pas mal non plus, il y a un gardien qui est très très bon. Donc attention à ce Danemark qui a bien sécurisé la première place.
Bon, on verra ça la semaine prochaine. Hein. On en reparlera la semaine prochaine. Donc, le groupe D, tiens, justement, on en venait. Donc, contre qui l'équipe de France va tomber à l'heure actuelle? Donc, la Croatie a 6 points en tête. Deuxième, le Nigeria, 3 points. Et troisième, Islande et Argentine, 1 point. Moins 2 pour l'Islande, moins 3 pour l'Argentine au goal average. Alors, effectivement, les deux derniers matchs, c'est Croatie-Islande et Nigeria-Argentine. Vous ne voyez pas quand même l'Argentine se refaire la santé, même si aujourd'hui, elle atteint complètement... les bas-fonds.
On peut se poser la question quand ils ont pris 3 la dernière fois, et 3 en quoi? En un quart d'heure, je crois.
Oui. Donc, 3-0 pour la Croatie dans le dernier quart d'heure. Ouais.
3-0, ça fait mal. Hein. Et puis, bon, Messi n'a pas été spécialement brillant non plus. Toute l'équipe n'a pas été brillante. Mais enfin, ils sont tombés sur une bonne équipe tout de même.
On a vu un Messi
inexistant,
transparent, aussi super énervé parce que ses coéquipiers, contrairement à Barcelone, ne l'aident pas beaucoup. Je comprends pas pourquoi il y a des gens sur le banc comme Di Maria ou autres qui n'intègrent pas l'équipe. Je comprends pas le stratège de Santa Maria.
C'est la grande question, hein. C'est la grande question, Santa Maria. Stéphane, c'est déjà une question qu'on se posait la semaine dernière et qu'on se repose, quoi.
Exactement. Tout à l'heure, on parle de ce fameux match couperet qui va arriver donc pour les Argentins. Sincèrement, s'il aligne la même équipe qu'on a vu là dans les deux premiers matchs, avec les mêmes intentions de jeu et tout, tout Messi qu'il est, c'est d'ailleurs tout le problème hein, qui est disséqué en Argentine, qui disent dans cette configuration-là, comme ça, de toute façon, un joueur ne peut pas faire la différence tout seul. Donc je pense, à moins, c'est vrai que le Nigeria n'ait pas les armes pour lutter contre ça, ça va être très compliqué. Maintenant, ce qui peut se passer effectivement, c'est qu'il faut savoir qu'il y a une énorme pression en Argentine, une pression des médias, une pression sur, et des anciens joueurs qui sont montés au créneau, notamment dernièrement Ardiles, qui a dit que c'était la pire équipe qu'il avait jamais vue. Qui a dit le plan A de Sampaoli, c'est passer la balle à Messi, mais il a pas de, et puis il va faire la différence, et il a pas de plan B, il a pas de plan C, il a aucun plan. Donc si on reste comme ça, ils passeront pas. Ouais. Maintenant, moi, je pense que aujourd'hui, Messi est capable aussi, aujourd'hui, par exemple, qu'on se parle, de taper du poing sur la table, d'aller voir Sampaoli et de lui dire, et en tout cas, il faut qu'il le fasse. Si c'est un grand joueur, on est un grand joueur sur le terrain, mais on est aussi un grand joueur en dehors du terrain, et ça, faut qu'il le fasse. Oui. Il faut qu'il dise, j'ai besoin de ça. Maintenant, un des joueurs bien, pas mal ciblé par la presse, par tout le monde, c'est Mascherano. Il faudra que Mascherano a joué très longtemps avec Messi. Est-ce que Messi va aller demander la tête de Mascherano, par exemple, pour ce match-là? Est-ce qu'il va le faire par rapport à ce qu'il y a? Je suis pas sûr. Mais ça, il faut qu'il le fasse. Il faut qu'il ait, par exemple, à ses côtés, on en parlait avant, un joueur comme Lo Celso, par exemple, à ses côtés, qui est un joueur de ballon, un joueur technique, alors quelle que soit la place on met, il peut le mettre à la place de Mascherano devant la défense s'il veut, il peut le mettre sur un côté, à côté, pas loin de Messi, mais si, c'est un joueur comme ça. On parlait aussi de Dybala. Bon, Dybala, on sait qu'il est, entre guillemets, incompatible, peut-être avec Messi sur le terrain, en tout cas, du point de vue du joueur de Barcelone, mais il faut qu'il y ait des changements. Il faut qu'il y ait forcément des changements. À mettre peut-être Higuain avec Agüero au début du match. On a vu Higuain. Il y en a un qui a fait il a fait deux rentrées dans les deux matchs. Higuain, il était quand même. Je pense qu'il a apporté un petit peu quelque chose quand on est rentré sur le terrain. S'il y a ça qui se passe, l'Argentine effectivement peut battre le Nigeria. Si Sampaoli reste muré dans ce qu'il pense et ne change pas son équipe, là je pense que l'Argentine ne battra jamais le Nigeria.
De toute façon, pour moi, il n'y a pas seulement une réflexion au niveau des joueurs, c'est aussi au niveau du dispositif. Le dispositif mis contre la Croatie, c'est tout simplement catastrophique. C'est une espèce de 3-2-2-3. Quand on est face à la Croatie avec des Modric et Rakitic au milieu de terrain et des devant c'est Rebic et Perisic sur les côtés qui dynamitent totalement la défense face à des mecs qui ont tous au moins 30 ans, quand il y a un tel vide au milieu de terrain dans un dispositif, c'est juste impossible. Et face au milieu de terrain du Real et au milieu de terrain du Barça, c'est tout simplement impossible. Et la défaite dans le jeu est logique. Donc certes, une réflexion à refaire, Messi doit prendre la parole effectivement, mais même au niveau tactique, au niveau du dispositif, c'est à refaire parce que cette équipe-là ne peut pas aller loin. Après, comme on disait tout à l'heure, pour moi, il y a toujours la bête blessée du gros qui peut se réveiller et qui peut faire mal. Donc honnêtement, ça paraît compliqué. Je sais pas si le parallèle est bon avec l'équipe de France en 2010. Le dernier match qui a été tout aussi catastrophique, mais est-ce qu'une équipe comme celle-là peut se relever, arracher une qualification au dernier moment? Ça, on peut pas le savoir, mais malheureusement, ça va être très compliqué pour eux.
Tu parlais de parallèle équipe de France. Pour l'instant, je vois un peu le parallèle avec l'équipe de France de 2002.
Oui,
justement. Rappelez-vous, 2002, fallait combattre le Danemark. Zidane, blessé pour les deux premiers matchs, faisait son retour. On y croyait tout. Sauf que on était tellement touché, tellement mal, tellement au fond du trou à ce moment-là, qu'on n'est jamais revenu. C'est pour ça que moi, je pense que sans un remaniement important autour des joueurs en place, de la tactique en place, comme tu le soulignes, ou des choses comme ça, sans ça, l'Argentine ne passera pas, même à l'orgueil, même avec un Messi extraordinaire, sauf si l'Argentine récupère la chance incroyable du Portugal depuis le début du tournoi, avec un but à la troisième minute, à la quatrième minute, un peu tiré par les cheveux, des fautes de match. S'ils ont ça, peut-être effectivement, et après ils iront peut-être très loin. Ça peut passer par, pour moi, ça passe. Si au coup d'envoi il y a la même Argentine, je donne zéro chance à l'Argentine. Ouais.
Modric, c'est but du mondial, c'est un début du mondial.
Superbe but. Ouais. Ah, si, quand même.
Il est beau.
Mais faut dire que sur ce match-là, quand même, la défense argentine était quand même arrêtée. Les Croates ont pu faire ce qu'ils voulaient. C'était pas cohérent. Il n'y avait pas de cohérence entre les lignes argentines. Le pauvre Messi, il essayait de faire ce qu'il pouvait, mais il avait toujours 2-3 joueurs sur lui. Et dès qu'il essayait de passer, soit qu'il était cisaillé, ou alors il était trop esselé, il pouvait pas passer le ballon. Les lignes étaient trop distantes les unes des autres, donc il n'y avait pas de cohérence, il n'y avait pas de groupe, ça jouait pas, quoi. Donc quand vous avez des lignes qui sont à 30 mètres ou 40 mètres les unes des autres, vous pouvez pas jouer au football.
Et puis Messi, moi personnellement, je le trouve sur la pente descendante. Hein.
Qu'il n'a pas fait une énorme saison.
Il n'a pas fait une saison énorme, il n'a pas fait des matchs phénoménaux, donc c'est plus le Messi d'il y a 3-4 ans. Hein.
Il reste un match contre le Nigeria. Ok, le Nigeria a été bon sur la deuxième mi-temps contre l'Islande, mais sur ce que j'ai vu, sur 90 plus 45 minutes du Nigeria, c'est tout simplement catastrophique, ça joue pas. Donc le Nigeria s'est réveillé avec notamment Moussa devant, qui a mis deux superbes buts, mais est-ce que ce Nigeria-là est vraiment impressionnant? Ils ont fait 45 bonnes minutes, mais le reste, pour moi, c'est catastrophique.
Ils ont été réguliers, hein. Ils ont battu l'Islande 2-0 hier, ils ont été battus par la Croatie l'autre jour, donc voilà.
Mais je pense quand même, comme disait Arnaud tout à l'heure, que l'Argentine aura un sursaut d'orgueil, et je pense qu'ils vont nous sortir un meilleur match contre le Nigeria. Et je pense quand même, malgré que Stéphane n'y croit pas beaucoup, je pense quand même que l'Argentine va passer.
Ouais, moi j'y crois parce que je suis convaincu. Convaincu. Je l'avais dit au premier truc.
Et puis il aime le football argentin. Oui, attends, c'est pas fini la compétition.
Non, mais je pense que c'est pas possible. C'est pas possible que Sampaoli va changer son équipe. Mais je dis juste, s'il la change pas, c'est-à-dire s'il aligne la même équipe, le même 11 de départ, par exemple, le gardien, je crois, déjà condamné, mais en dehors de ça, s'il aligne le même 11 de départ face au Nigeria, je pense qu'ils passeront pas, à moins d'un grand coup de bol. Maintenant, en revanche, je suis quasiment convaincu quoi qu'il va effectivement faire des changements, céder un peu à la pression, vouloir aussi sauver sa tête. La finaliste de la Coupe du Monde qui passe pas le premier tour pour sa carrière et tout, ça va quand même être un gros. Il va se faire jeter comme un mail propre avant même d'être rentré en Argentine, je pense. Donc il a pas envie de ça non plus. Donc peut-être qu'il va un peu, on parlait tout à l'heure peut-être de Mascherano qui était entre guillemets protégé peut-être par Messi, mais Di Maria aussi, il peut être sauvé par Messi parce que c'est deux joueurs qui adorent jouer ensemble.
Très bien. Ok, verdict mardi soir, à 20h, on aura Nigeria, Argentine et Islande-Croatie, juste après l'équipe de France, donc qui jouera à 16h contre le Danemark, en même temps qu'Australie-Pérou. Allez, la pub, la musique, et puis on repart sur les autres groupes de ce mondial 2018.
Brifo Électricité, entreprise familiale depuis 1981, est votre spécialiste dans les Yvelines pour tous vos travaux électriques. Création et rénovation chez les particuliers comme les professionnels. Nous vous proposons également l'installation d'interphones, de vidéosurveillance et de détecteurs incendie. Brifo Électricité motorise vos portails, vos portes de garage et assure l'installation et la gestion de votre chauffage électrique. Votre satisfaction est aussi la nôtre. Devis gratuit, dépannage rapide. Informations et réservations au 01 30 46 11 56 ou sur notre site brifo-électricité.com. DMP Doc des Matériaux du Perret, votre spécialiste des matériaux de construction à votre service depuis 1996. Professionnel et particulier, DMP est distributeur et storiste des grandes marques pour tous vos matériaux, le bois au détail, le métal et l'outillage. DMP, c'est le conseil, la disponibilité et la livraison toute quantité. DMP Doc des Matériaux du Perret, 10 rue Roseau au Perret en Yvelines. Ouvert du lundi au vendredi de 8h à midi et de 13h30 à 18h, ainsi que le samedi de 8h à midi. DMP Doc des Matériaux du Perret, 01 30 46 30 97.
Il n'y avait plus cette petite flamme entre nous. Je le trouvais vieilli, terne, ennuyeux. Bref, je pouvais plus le voir. Alors je l'ai remplacé. Et celui-là, il a vraiment tout ce qu'il faut. Brillant, classe, je ne me lasse pas de le regarder.
Plafond fissuré, vieilli, peinturé, caillé. Avec Creative Design, le spécialiste du plafond tendu, changez pour un plafond séduisant. Mat, brillant ou satiné, Creative Design pose votre nouveau plafond dans la journée. Sans poussière et sans odeur.
Une œuvre d'art.
Rendez-vous sur creativedesign.fr 01 58 88 21-20.
Roadblocks, one shot, one truth, no fears, one flag. Oh yeah, we've been waiting for this. Oh yeah, we all at?
We right here. Ya empezó la rumba y estamos celebrando. Todo el mundo que me levante la mano. Estamos vivos, hay que disfrutarlo. Hoy nadie me detiene porque yo no sé parar. Now, now. One life, live it up, cause we got one life. One life, live it up, cause we got one life. One life.
Every nation under the sun, elevating their favorite sign when he hit and run. You wanted it, you got it, the whole world is watching, so let's get this popping. We all live, we right here. Only one life to live, got so much to give. Fighting for the nation now, that is my gift. Run like a champion and win like a king. That's my only goal, my everything. Live it up now, now.
Dimanche, 10h-11h, 10h-11h, sur RVE, retrouvez toute l'actualité sportive, locale, régionale, nationale et internationale dans Tribune Sport, avec Philippe Carnu.
Alors messieurs, le groupe A maintenant, la Russie en tête avec l'Uruguay 6 points, l'Égypte et l'Arabie Saoudite 3e et 4e avec 0 points, ça y est, les dés sont jetés dans ce groupe A.
Oui. Mais bon, avec une Russie qui domine les débats, mais enfin, ils ont un groupe relativement facile, tout de même, parce que quand on voit les matchs, on ne peut pas dire que ça soit très difficile, malgré l'Uruguay.
Enfin, l'Uruguay-Russie, ça va être le match pour la première place.
Oui, ça va être le match pour la première place, mais moi, je ne vois pas la Russie perdre, hein, très honnêtement. Ils sont stimulés, les gars.
Ouais, c'est ça, Stéphane, le fait de jouer à domicile, bah, ça les transcende, même si on sait qu'en 8e, ça va s'arrêter.
Bah, je ne sais pas si ça va s'arrêter, mais en tout cas, c'est vrai que bon, là, Francis, tu disais un groupe relativement facile. Moi, je me souviens quand même surtout qu'avant la Coupe du Monde, je sais, il n'y a pas beaucoup de gens aussi qui pariaient forcément sur une qualification de la Russie. Hein. Mmh. Avec la préparation des Russes qui n'ont rien gagné.
Ils n'avaient pas été très bons contre nous.
Voilà. L'Égypte, après, ouais. Bon, certes. Mais c'est pareil, après, ça se joue sur des détails et tout. Quand on voit que l'Égypte, privée de Salah pour son premier match, prend un but, je sais pas, 92e minute sur un coup de pied arrêté contre l'Uruguay qui l'élimine. Donc après, se retrouve avec la grosse pression pour jouer contre son deuxième match. Donc ça se joue sur pas grand chose. C'est vrai qu'eux, ils sont là. Moi, effectivement, je pense qu'ils vont être là au premier tour. Ils sont galvanisés par l'événement et tout. Et c'est très bien, d'ailleurs, d'avoir une équipe qui soit présente en huitième de finale, mais avec des quelques révélations, quoi. Révélations, peut-être pas des révélations, mais des joueurs, d'ailleurs, un peu partout dans cette Coupe du Monde, les joueurs du CSKA à Moscou, ils sont pas mal, hein. Il va avoir une bonne préparation physique. Hein.
On peut le penser. Hein. Alors effectivement, donc 5-0 devant l'Arabie Saoudite, 3-1 devant l'Égypte.
L'Égypte n'a pas été ridicule du tout. Hein.
Ouais, on attendait peut-être un peu mieux quand même. Hein. Comme beaucoup de ces pays du Maghreb, hein, l'Égypte, le Maroc, tout ça, ça va s'arrêter. La Tunisie probablement.
La Russie, ils ont une motivation supplémentaire, c'est qu'ils ont chez eux, ils ont leur public. Voilà. Et donc, ils sont comme des lapins. Bon. Après, on ne sait pas, mais comme disait Stéphane, au tour suivant, je ne sais pas si contre qui ils vont tomber, mais je ne sais pas s'ils passeront les 8.
Je crois qu'ils tombent sur le deuxième de Espagne-Portugal, ouais. Donc voilà.
Le deuxième ou le premier suivant.
Oui, s'ils sont battus par le.
Non, mais la Russie, voilà, ça joue bien au foot, ça jouait pas bien il y a 2 mois. Après. Bravo à eux, bravo aux sélectionneurs. Aussi, je pense qu'il y a une certaine pression politique, mais même. Au-delà des suspicions, il y a une certaine pression politique et voilà, ils ont une Coupe du Monde à domicile et souvent les pays organisateurs réussissent bien leur Coupe du Monde, mis à part l'Afrique du Sud il y a 8 ans, l'organisateur a toujours passé le premier tour. Faut reconnaître qu'ils ont bien joué au foot aussi pendant 180 minutes et après il leur reste un match contre l'Uruguay et moi un petit mot sur l'Uruguay, pour moi, c'est l'équipe la plus chiante de cette
Coupe. C'est vrai, 1-0 deux fois. Hein. 1-0 devant l'Arabie Saoudite, 1-0 devant l'Égypte. Ouais, en toute fin de match.
Alors oui, mais j'espère que l'équipe de France ne va pas tomber contre parce que l'Uruguay, c'est une équipe qui va t'endormir le jeu, qui a une défense ultra solide, mais vraiment ultra solide. Ils me font penser au Portugal d'il y a 2 ans. Donc attention à l'Uruguay parce que pour moi, c'est une équipe qui ne joue pas au foot, même contre l'Arabie Saoudite. Ils ont laissé la possession. Ils s'en sortent avec un but à 0 comme au premier match. Voilà. Quand ceci dit, même une attaque Suarez-Cavani qui est aussi peu efficace, ça fait bizarre. Mais c'est une équipe qui t'endort le jeu et qui, pour moi, peut sortir de nombreuses équipes en sortant vraiment nulle part.
Bon. D'accord avec ça, Joseph ?
Arnaud a tout résumé. Pour l'instant, Cavani-Suarez, il n'y a pas le rendement escompté. Hein.
Bon, on verra, mais Russie, Uruguay, dans quel ordre, on saura ça donc effectivement lundi, puisque il y aura Russie, Uruguay et Arabie Saoudite, Égypte à 16h. Et puis, il y aura le même jour à 20h, eh bien, les derniers matchs du groupe B. Là, le suspense demeure, hein. Espagne en tête avec le Portugal 4 points, l'Iran 3e 3 points, 4e le Maroc est éliminé 0 points. Stéphane, le Maroc méritait mieux?
Moi, je pense que ouais, effectivement, je pense que le Maroc méritait mieux, méritait beaucoup mieux. Quand on regarde, ils ont les pauvres, ils prennent un but contre le cours du jeu. Peut-être pas, ils ont peut-être pas fait ce qu'il fallait pour marquer avant, mais quand même un peu contre le cours du jeu contre l'Iran. Après, le Portugal, ils encaissent un but au bout de 4 minutes. Alors après, rien ne peut dire comment se serait passé le match si le Portugal n'avait pas marqué. Parce qu'effectivement, les Portugais ont été j'ai trouvé très décevant sur le reste du match, mais bon, ils menaient 1-0, ils n'avaient pas forcément besoin non plus de s'emballer pour faire le jeu et tout ça. Mais c'est vrai, pour moi, c'est l'équipe qui s'en va. C'est très décevant de les voir partir de la.
Ils ont eu beaucoup d'occasions quand même. Les Marocains sont battus 2-0, mais beaucoup d'occasions quand même devant l'Iran 1-0 et devant le Portugal 1-0 quand même.
Disons que Rui Patricio a quand même sauvé l'équipe du Portugal. Il a fait 2 arrêts réflexes. Et comme disait Stéphane, c'est vrai que le Maroc méritait beaucoup mieux. Peut-être que le Portugal a marqué trop tôt dans le match et il y a eu un non-match de la part des Portugais. Peut-être qu'après, j'espère qu'ils ne vont pas nous refaire la même qu'il y a 2 ans en France pour l'Euro et qu'ils vont se mettre à jouer. Parce que là, honnêtement, à part avec l'Espagne où ils ont défendu, parce que l'Espagne, sur ce match-là, était quand même dur à prendre. Et c'est tout à leur honneur d'avoir fait un match nul 3-3. Mais s'ils continuent à jouer comme ça, ils n'iront pas loin, je ne pense pas. Il va falloir qu'ils sortent un peu les triples là, et qu'ils se mettent à jouer parce que. S'il tombe contre une équipe comme l'Allemagne ou qui va commencer à jouer aussi, ça va être compliqué pour eux.
Et l'Espagne qui a battu l'Iran 1-0, déception hein, de l'Espagne par rapport à sa prestation où elle avait partagé les points contre le Portugal 3 partout.
Oui, le deuxième match de l'Espagne, nul de chez nul. Si. Rien à voir avec le premier match que. Ça jouait pas à la PlayStation comme ils jouent d'habitude, comme ils ont joué contre le Portugal. Le Portugal, je te dis, ils ont eu du mérite de pouvoir égaliser un super Ronaldo sur ce match-là. Mais le deuxième match de l'Espagne n'a rien à voir avec le premier.
Bah moi, enfin, je vais me faire cisailler, mais j'ai eu un petit coup de cœur pour l'Iran. C'est vrai que c'est une équipe qui joue pas au foot, mais on va pas se mentir, pour la plupart d'entre nous, je pense pas qu'on connaisse spécialement les joueurs de l'Iran, mais honnêtement, c'est une équipe qui joue pas au foot, mais je trouve qu'il y a du cœur et les mecs y vont et c'est sympa à voir. Il y a un gardien qui est pas mauvais d'ailleurs. Effectivement, c'est pas spécialement la beauté du foot, mais je trouve ça plutôt sympa à voir des mecs qui posent les tripes sur le terrain, contrairement à d'autres équipes qu'on attendait plus. Ils ont déjà 3 points, ils sont 3e si je dis pas de bêtises. Ouais.
C'est vrai que dans ce groupe-là, l'Iran et le Maroc méritaient mieux. Ça c'est sûr.
Le Maroc va jouer l'Espagne, bon, oui. C'est fini. Hein. Mais par contre, le même jour, il y aura le Portugal qui va jouer l'Iran, qui sait.
C'est parfait encore. C'est exactement ce que j'allais dire. Quoi. C'est tu dis l'Iran méritait mieux, mais moi je dis que le Portugal a intérêt à faire autre chose que compter uniquement sur Ronaldo pour passer, parce que sinon ça va être très compliqué. Et on parlait tout à l'heure effectivement de défense de fer du Portugal lors de l'Euro en France. Moi aujourd'hui, j'avoue que c'est ce qui m'inquiète énormément. Pour moi, sur les 4 joueurs,
ils sont moins solides qu'il y a 2 ans quand même.
Pour moi, sur les 5 joueurs qui sont derrière, hein, le gardien de but et les 4 défenseurs, c'est le gardien de but qui les sauve. Peut-être, et encore, ses qualités défensives, elles ne sont pas non plus exceptionnelles.
Disons que sur l'Euro 2016, c'est Pepe et puis Rui Patricio qui ont sauvé la sélection quand même. Hein. Mm-hmm. Pepe, il avait fait un super Euro. Et Rui Patricio, c'est lui qui sauve l'équipe contre l'équipe de France. Hein. Mais là, comme tu disais, ils ont intérêt à mieux jouer contre l'Iran parce que ça ne va pas être la même. L'Iran, comme s'ils gagnent, ils sont qualifiés. Les Portugais, ils ont intérêt à jouer mieux que ce qu'ils ont joué pour jusqu'à maintenant.
Ouais, il n'y a qu'un point d'écart entre les deux. Et puis, bon, le Portugal, c'est tout.
Un petit but de Ronaldo, un petit à zéro pour les Portugais, voilà.
Ils sont Ronaldo dépendants. Si Ronaldo est d'un jour sans, on peut s'attendre au pire. Voilà, on peut s'attendre au pire. Hein. Donc, faut jouer. Mm-hmm. Mais bon, le Portugal sans Ronaldo, c'est tout de même pas une grande équipe, tout à fait, entre nous.
Mm-hmm. Allez, on passe au groupe E, le Brésil. C'était hier. Donc, le Brésil qui a 4 points avec la Suisse, la Serbie 3e, 3 points, et 4e, Costa Rica éliminé 0. Victoire difficile hier des Brésiliens devant le Costa Rica.
Devant le Costa Rica, il a fallu.
2-0.
Oui, il a fallu aller aux prolongations à la 91e ou 92e minute. Et puis après,
97e avec Neymar.
Neymar à la 97e. Mais pour revenir sur Neymar, j'ai vu quand même un joueur un peu pas encore à 100% de ses capacités. Pourtant, je suis un supporter du PSG, mais je vais pas dire du mal de Neymar. Mais je trouve que hier, c'était une pleurnicheuse quand même. Il voulait attirer l'attention sur lui. Je sais pas, mais c'est vrai qu'il est cisaillé. C'est des joueurs qui sont, c'est des têtes d'affiche. Et c'est vrai que les autres.
Puis son jeu appelle des fois la faute aussi. Voilà,
ne leur font pas de cadeaux. Mais de là à pleurnicher toujours auprès de l'arbitre, c'est pas très professionnel.
Ceci dit, une blessure au pied, si vraiment elle s'est avérée, ça se guérit pas trop en 3 mois.
Donc c'est pour ça, est-ce qu'il sera à 100% sur ce mondial? Moi, j'y crois pas. Hein.
Non, je crois pas qu'il sera à 100%. On le voit, il a du mal, il a pas les mêmes enjambées qu'il avait au départ avec le PSG ou même à Barcelone. Là, je pense qu'il est quoi? Il est à 60-70% de ses moyens, il est pas à 100%.
Neymar, la victoire du Brésil, donc qui va probablement quand même, malgré même son match en demi-teinte contre la Suisse, un partout se qualifier.
Bah, le problème du Brésil, c'est comme tous les gros, comme la France, l'Allemagne, c'est pire, mais comme l'Espagne, comme le Portugal, c'est que c'est pas impressionnant et ça a pas pour le moment l'allure d'un futur champion du monde. Après, je pense que toutes ces équipes-là, elles ont une préparation physique qui leur dit vous serez au top à partir des huitièmes. Pour la plupart d'entre elles, passer le premier tour, c'est normal, c'est le minimum syndical. Après, voilà, est-ce que le Brésil pourra réussir à montrer un vrai niveau de jeu? Moi, je le pense sincèrement parce qu'en deuxième mi-temps, ils sont mis à jouer au foot et sans un Navas, un super Navas, il y a 4 ou 5-0. Donc, voilà.
Comme la première mi-temps contre la Suisse, vous avez joué au foot. Hein.
C'est ça. Bah,
après, ils ont arrêté de jouer.
Le Brésil, une fois que ça joue au foot, quand t'as une attaque Neymar, Coutinho, Willian, Gabriel Jesus, ça fait très très mal. Et pour moi, c'est juste. C'est une question d'envie et c'est une question vraiment de mettre l'intensité suffisante. Je suis pas inquiet pour le Brésil, sincèrement. Ils vont faire premier du groupe. Et pourquoi pas un petit Brésil-Allemagne dès les huitièmes. Mais voilà, pour moi, le Brésil, sur ce que j'ai vu sur les matchs de préparation et sur ces derniers mois, c'est l'équipe qui m'impressionne vraiment le plus sur la planète football. Donc je suis pas inquiet pour le moment avec eux.
Et bien ensuite, la Suisse va accompagner le Brésil. Stéphane, il y aura donc Serbie-Brésil et puis Suisse-Costa Rica. Donc le Costa Rica d'ores et déjà éliminé. On peut penser que la Suisse va accompagner le Brésil.
Ouais, effectivement, ça paraît logique. Pour l'instant, sur le papier, hein, tout le monde voit effectivement le Brésil battre la Serbie et puis la Suisse battre le Costa Rica. Maintenant, bon, pour l'instant, il s'est pas passé beaucoup de choses comme effectivement on pensait qu'il allait se passer. Et comme on disait tout à l'heure, alors, moi, je suis aussi, je pense qu'aujourd'hui, le Brésil est, je trouve qu'on est un petit peu dur avec le Brésil, parce qu'effectivement, autant je les avais, presque enterrés après cette première mi-temps contre le Costa Rica, mais c'était hallucinant, quoi. Je croyais voir l'équipe de France, la deuxième mi-temps de l'équipe de France. C'est un truc de dingue, quoi. Et effectivement, par contre, en deuxième mi-temps, comme on dit, hein, s'il y a 4-0 ou 5-0, c'est quand même une des équipes qui a le plus impressionné, qui a vraiment montré en jouant, comme on dit, Coutinho, pour moi, il fait partie des 3-4 joueurs pour l'instant du premier tour, quoi, de la Coupe du Monde, quoi. Il a un niveau Coutinho, il a moins joué avec Barcelone d'après son transfert, il a moins joué que beaucoup d'autres joueurs de son équipe. Mais c'est vrai que maintenant, Neymar monte en puissance. Le souci, effectivement, ça serait quand même, je pense, qu'un Brésil Allemagne en huitième de finale serait un gros coup dur pour le Brésil. Pourquoi? Parce que il serait quand même favori, mais ils vont avoir, pour battre l'Allemagne, ils auraient besoin d'un Neymar à 100%. Et genre, en huitième de finale, je ne suis pas sûr qu'il sera encore à 100%. Même si il monte, sa blessure au pied, elle est guérie. Mm-hmm. Elle est guérie. Maintenant, il faut qu'il retrouve, quand on s'est arrêté 3 mois, il faut retrouver la puissance physique, surtout qu'on sait que c'est un joueur qui est très très tonique, qui joue beaucoup.
Je pense que psychologiquement, les 7
buts. Oui, Crétin Bello horizonté, là, ça marque, ça. Hein.
Les 7 buts qu'ils ont encaissés contre l'Allemagne en demi-finale, ça reviendra dans les esprits, quoi qu'il arrive.
Ça peut être acquis tout double. Hein.
Oui, ça peut être. Ou alors une vengeance, et puis surmotivation, et puis peut-être un super match contre l'Allemagne. Ouais. Mais psychologiquement, il y aura quand même les 7 buts qui viendront dans les têtes des joueurs.
Le défaut, et pour moi c'est peut-être le seul défaut de cette équipe du Brésil, c'est la tête, c'est le mental. On a vu Neymar craquer totalement à la fin du match, un petit peu en mode on a eu chaud au cul, on s'en sort, on gagne. Mais,
c'est très brésilien ça quand même.
Oui, c'est très brésilien, on l'avait vu avec Thiago Silva il y a 4 ans à la Coupe du Monde, c'est quelque chose d'un petit peu habituel. Après, voilà, le Brésil dans le jeu ça joue, mais est-ce que mentalement c'est suffisamment solide? Et pour moi il y aura toujours les fantômes du 8 juillet 2014 et cette défaite 7-1 contre l'Allemagne. Si le Brésil de toute façon veut être champion du monde, il faudra savoir sortir les plus grands, et ça passera peut-être par l'Allemagne dès les 8e de finale.
Ceci dit, l'Allemagne est fantomatique, hein, donc...
Oui, justement, on va en parler. L'Allemagne, alors attention, comme on enregistre, on nous écoutera demain, ils doivent se réhabiliter contre la Suède, les Allemands. Ils n'ont pas le choix après leur défaite contre une très belle équipe du Mexique, 1-0, dimanche après-midi.
Moi, je crois, peut-être que même à l'heure où on écoutera ces mots, je serais ridicule. Mais je serais peut-être.
Moi, je pense que l'Allemagne va gagner. Allez, je me jette à l'autre.
Ouais, moi aussi, je crois beaucoup à l'Allemagne, même pour la suite de la compétition. Ouais, c'est ça que je dis, que ça serait très compliqué. Mais alors, je reviens juste sur le Brésil. Ouais, effectivement, il y a ce traumatisme de 7-0. Mais combien de joueurs potentiellement qui étaient présents pratiquement aucun, je pense.
Aucun ?
Pratiquement aucun. Ont participé au match. Allison dans les buts, il n'était pas là.
Non, pas là.
À droite, ça va être donc qui que ce soit, il n'était pas là. Dans l'axe, Thiago Silva, il était suspendu. Il ne jouait pas ce match. Miranda ne jouait pas. Donc Marcelo, 1. Marcelo, 1. Paulinho, peut-être. Paulinho, voilà, 2.
Pas Coutinho.
Casemiro était sur le banc pour moi.
Ouais, mais il n'était pas là. Neymar, pas là, blessé.
Oui.
L'attaquant qui joue, Gabriel Jesus, pas là.
Donc, effectivement,
2-3 maximum sur le truc.
C'est vrai.
Donc peut-être aussi qu'ils vont se dire, Neymar par exemple va pouvoir se dire, c'est ce que ça sera positif ou pas, j'étais pas là, avec moi ça aurait peut-être changé. Et je rappelle une dernière chose, hier il y avait un match, le match du Brésil hier que j'ai écouté que je regardais à la télé, et le commentateur a donné à l'époque une stat très intéressante. Il disait que ce 7-1 de l'Allemagne, il y avait eu, je crois que c'était 18 tirs pour les Brésiliens et 14 pour les Allemands. Oui. Et qui reflétait finalement les stats, pas non plus énormément le résultat final du match.
Oui, après on lâche dans la tête. Hein.
Ce match-là, c'était un énorme trou d'air entre la 20e et la 27e, ils en prennent 4. C'est l'histoire de la Coupe du Monde, et ça sera, on aura d'autres histoires qui vont s'écrire en phase finale à partir des phases d'élimination directe. Donc voilà, je pense que... quand on est professionnel, quand on veut être deux grands joueurs, une grande équipe et un grand joueur pour Neymar, on repense pas spécialement à ce qui s'est passé il y a 4 ans. Et Neymar, comme Messi, comme Ronaldo, veut écrire sa légende. Et pour moi, une légende, une vraie légende du football, se doit de gagner la Coupe du Monde. On sera peut-être pas d'accord, mais pour moi, une légende du foot.
Il y a des légendes qui n'ont jamais gagné. Hein. On connaît ça avec Stéphane, Johan Cruyff notamment. Hein.
Notamment en 74 contre l'Allemagne, justement.
Ouais, Et puis Michel Platini aussi. Hein.
Ouais, tout à fait. Ouais. Mais bon, Cruyff et Platini sont-ils aujourd'hui des légendes au même titre que Ronaldo, Messi, Zidane?
On verra, je me tromperai peut-être le 15 juillet prochain, mais pour moi, Messi ou Ronaldo, c'est leur dernière chance, et je pense qu'il n'y aura ni l'un ni l'autre qui va repartir à la fin avec une Coupe du Monde.
Oui,
donc,
je suis d'accord avec toi.
Eh ben on verra. Allez, dans l'autre groupe, donc on peut penser que la Suède et puis l'Allemagne vont passer. Dans le groupe G, Belgique, Angleterre, bien parti après la victoire donc des Anglais devant la Tunisie 2-0.
Bah, une victoire au raccro, hein. Ils mettent le dernier but dans les arrêts de jeu.
Comme tous les grands.
Même, enfin, ils n'ont pas dominé, très honnêtement. Par contre, la Belgique, ça joue pas mal. Hein. Oui. Le premier but belge, fabuleux. Mmh.
La Belgique a pris le Panama. Ils sont à 0-0 à la mi-temps. Il y a un terrible manque d'efficacité devant le but. C'est le Panama. Ce match-là, ils peuvent le gagner 6 ou 7-0, mais ça fait que 3 parce qu'ils ont un sursaut d'orgueil en deuxième mi-temps, et que le Panama a surtout craqué au physique. Voilà, la Belgique m'a pas impressionné.
Je pense que le Panama, c'est une des plus faibles équipes de ce mondial. Hein. J'ai vu le match, il n'y avait rien.
Il n'y avait rien. Et à la 60e minute, les mecs étaient totalement cramés. Donc, c'est le folklore de la Coupe du Monde. Voir une petite équipe comme ça, la Coupe du Monde, qui s'est qualifiée au cœur, au courage, dans un match de barrage dans sa zone. Donc, la Belgique, pour moi, n'est pas impressionnante. L'Angleterre, à la 10e minute, ils peuvent mener 3-4-0, pareil. C'est pas efficace devant le but. Et au final, la Tunisie se refait la cerise grâce à...
Ils gagnent 2-1 seulement.
Oui, 2-1 seulement.
Donc, voilà, les Anglais peuvent espérer. Mais malheureusement, c'est un petit peu, depuis plus de 50 ans, c'est un petit peu l'équipe de la loose. Donc,
On les attend toujours. Puis ils sont jamais là depuis, effectivement, un bon nombre d'années. Hein.
Après, pourquoi pas, il y a une génération en or, un petit peu comme l'équipe de France, ceci dit, mais est-ce que on peut espérer l'Angleterre, par exemple, dans le dernier carré? C'est l'objectif ultime, mais ça paraît compliqué. Voilà, il y aura, si je dis pas de bêtises, ça sera pas les matchs de demain, ça sera les matchs de la semaine suivante contre la Belgique. Ça voudra déjà dire beaucoup pour l'une comme pour l'autre, mais voilà, l'Angleterre ou la Belgique. Pour le moment, il y a rien de prouvé, il y a rien de fait non plus.
Ouais, c'est le 28 juin, Angleterre-Belgique qui, à mon avis, déterminera la première place. Panama-Tunisie se jouera pour l'honneur. Tiens, le groupe le plus homogène peut-être, le groupe H, Japon-Sénégal en tête à ce jour avec 3 points, la Pologne et la Colombie 0 points. Qui va sortir ce groupe, messieurs? Le Sénégal qui a battu la Pologne 2-1 et puis le Japon qui a battu la Colombie 2-1.
Ouais, je suis un peu déçu les Colombiens. Je pensais bien qu'ils allaient dominer cette poule, mais non.
Ils jouent la Pologne demain.
Ils jouent la Pologne, on verra. Mais c'est très indécis. Moi, je
suis pas facile.
Oui, je pense que la Colombie, quand on les a vus jouer contre l'équipe de France, ils ont montré un autre visage qu'ils ont montré là.
Oui,
il y a un fait de jeu
à 3e minute.
C'est vrai qu'on peut être déçu par la prestation des Colombiens.
Pour moi, il y a un véritable fait de jeu. La Colombie se retrouve à 10 à la 3e minute. Donc, est-ce que ça aurait été le même match? Je ne sais pas et personne ne pourra le savoir. Sur le papier, tout le monde s'attendait à ce que Pologne-Colombie, ça soit les deux qui sortent du groupe. Et au final, les deux ont perdu leur premier match.
Ouais.
Le Japon, pour moi, c'est tout de même très faible. Ils sont à 11 contre 10 pendant 87 minutes. Et ils ont failli perdre ce match, se faire rejoindre. Et ils ont été dominés par une équipe à 10. Donc, pour moi, le Japon, malheureusement, ça va tomber. Ça va se jouer entre Pologne, Colombie et Sénégal. Voilà. Mais un Sénégal qui joue bien au foot.
Je pense quand même que la Colombie va se reprendre et finira première ou deuxième.
Ouais, moi je mise sur la Colombie et le Sénégal, les deux équipes qui vont passer. Oui. La Pologne, c'est pratiquement une des pires équipes qu'on a eues. C'est hallucinant. Quoi.
Et on parle toujours du joueur du Bayern, le Lewandowski. Ouais. Il a été inexistant.
Ah, mais il n'a pas eu de ballon, il n'a rien.
Oui, c'est vrai.
Ça
me fait penser un peu à Messi avec l'Argentine pour l'instant. C'est un très très grand joueur, mais le reste de l'équipe ne l'aide pas. Un peu comme les Ronaldo et tout ça.
Voilà, en tout cas, réponse le 28 juin.
J'espérais que le Sénégal soit second, sinon on n'a plus occupé une équipe africaine.
Oui, c'est vrai. On fera le bilan la semaine prochaine. C'est vrai qu'il y a quelques continents comme l'Amérique du Sud ou le Sénégal où c'est quand même. Ça dépend. Ça dépend. C'est pas joué, on verra. Allez, la pub et la musique, et ensuite on conclut cette émission, messieurs.
Particuliers, électriciens, collectivités, entreprises, commerçants, il y a du nouveau à Rambouillet pour toutes vos questions d'éclairage. LED Pro France, c'est un showroom de plusieurs mètres carrés et un magasin proposant une très large gamme d'ampoules, de luminaires, projecteurs, bandeaux LED à des prix imbattables. LED Pro France, votre partenaire lumière, vous conseille et vous accompagne dans tous vos projets neufs et de rénovation d'éclairage. Alors n'hésitez plus. Particuliers, électriciens, collectivités, entreprises, commerçants, rendez-vous dès aujourd'hui voir des éclairage LED de qualité professionnelle à des prix usine. LED Pro France, ZA du Bel Air, 12 rue Pierre Métairy à Rambouillet. 01 30 88 97 54. 01 30 88 97 54 ou sur notre site internet ledpro-france.com. Bienvenue au Savoyard, 46 rue d'Angivillers à Rambouillet. Depuis 30 ans, le restaurant Le Savoyard propose une cuisine traditionnelle française et aussi des spécialités savoyardes. Le tout fait maison. Alors pour un moment convivial entre amis ou en famille, votre restaurant Le Savoyard vous accueille du mardi au samedi soir. Le Savoyard, 46 rue d'Angivillers. Téléphone 01 34 83 35 77.
Vous voulez vendre ? Achetez un bien sur Offargis, Le Perret ou Vieille Église. Appelez Pierre Burtel, votre agent conseil en immobilier, au 06 43 27 13 08 et bénéficiez des honoraires réduits de l'agence ImmoJust. Pierre Burtel au 06 43 27 13 08.
J'ai l'art de me défiler. Je passe toujours à côté. Je collectionne les actes manqués. J'aurais dû oublier. Ton regard remplit mes pensées. Quelques mots étrangers.
Dimanche, 10h-11h, sur RVE, retrouvez toute l'actualité sportive, locale, régionale, nationale et internationale dans Tribune Sport, avec Philippe Carnu.
Allez, cette émission touche à sa fin. La semaine prochaine, on sera en direct, puisqu'on sera rentré de Moscou. Un petit mot, comment vous trouvez cette Coupe du Monde d'une façon générale, à ton rôle ? Sur le plan du jeu, sur le plan du spectacle.
Je dirais qu'il n'y a pas une équipe qui se détache actuellement. On attend de voir la troisième phase des poules et les poules. Après, on fera un commentaire, une synthèse après la fin des matchs.
D'accord. Ok, Francis, le sage. Stéphane,
enfin, je crois quand même que Francis, le sage, a tout dit. Déjà, est-ce qu'il y a beaucoup de Coupes du Monde où, après deux matchs dans la première phase de poule, on est capable de dire vraiment eux, ils vont gagner le mondial et tout? C'est quasiment impossible. Les équipes, surtout que les équipes de début sont très rarement celles de la fin. Donc ça va être très, très compliqué. Moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, on voit une avancée technologique énorme avec l'arbitrage vidéo.
Ça, c'est le point positif de ce mondial.
Et ça a déjà, ça a déjà changé le cours de pas mal de matchs, quoi. Donc, je pense que c'est très très important. Et le football, on est vraiment dans le football moderne aujourd'hui.
Oui, je suis d'accord avec Stéphane et Francis. Pour l'instant, on voit pas une équipe qui se détache plus qu'une autre.
Tant mieux pour nous, si je suis pris de demeure.
Tant mieux, parce que, comme disait tout à l'heure Arnaud, les grandes équipes, l'Allemagne, la France, l'Espagne, le Portugal et tout ça, ils sont quand même en deçà de ce qu'on pourrait attendre d'elles.
Comme ça, on peut continuer à discuter, à parler, à faire des pronostics. C'est impeccable, c'est ça, hein.
Voilà, c'est... Ouais, bah écoutez, des Coupes du Monde, malheureusement, j'en ai vu beaucoup moins que vous, mais c'est la fête du foot, c'est sympa à voir.
2014, ma première fois.
Malheureusement, je suis pas sûr.
Oui, puis bah pour moi, c'est 2006, donc c'est plus récent. Donc voilà, après, c'est sympa. Il y a des équipes qui sont plaisantes à voir, je pense notamment à la Croatie, et les équipes, pour moi, qui sont plaisantes à voir, c'est pas spécialement celles qu'on attendait. Donc. Brésil, Allemagne, France, c'est toujours avec l'Espagne, c'est toujours les favoris, et à partir des huitièmes, on aura vraiment une vraie idée. Donc vive les huitièmes et on a hâte.
Et par contre, il y a quand même un fait important. Avec Stéphane, on a suivi des Coupes du Monde où il y avait déjà 3 ou 4-0-0 sur des premiers tours. Là quand même, Stéphane, c'est assez impressionnant, il n'y a pas de 0-0, quoi. Même si les matchs sont parfois très moyens, il y a des buts.
Exactement, il y a des buts, mais faudra regarder dans les stats exactement l'implication de la VAR sur ces buts. Mais c'est vrai que ça aussi, c'est de plus en plus difficile d'avoir un 0-0, parce qu'il y a forcément de toute façon un moment un pénalty oublié dans tous les matchs comme ça, ou des choses comme ça, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui grâce à ça. Donc ça, c'est vraiment super, quoi. Pas énormément de spectacles, mais des buts.
C'est vrai qu'il y a eu des matchs un peu tristounés, mais c'est vrai qu'il y a toujours eu des buts, et c'est tant mieux pour le foot.
Très bien, eh ben messieurs, merci. Rendez-vous dimanche prochain, on sera rentré de Moscou, on aura plein de choses à vous dire. Et puis, restez-nous fidèles sur l'antenne d'Hervé, et les programmes continuent en ce dimanche 24 juin. Merci à tous et à tous, et rendez-vous dimanche prochain. Salut.